Prions notre Seigneur. Grand roi, Père de toute grâce, Dieu d'amour.
Oui.
Notre Seigneur, nous sommes là pour écouter ta parole. Nous venons d'ouvrir notre cœur dans l'intercession. Maintenant, c'est ton tour de nous parler. Seigneur, dispose nos cœurs à l'écoute de cette parole. Que ton esprit nous guide et nous conduise. Nous te prions que le même esprit soit avec celui qui va nous diriger, nous conduire, nous orienter, car c'est ta parole et c'est à ton honneur que cette séance est organisée. C'est pour cette raison que la personne chargée à la conduite doit être remplie de ton esprit. Nous te prions tout ceci dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen.
Amen.
Merci beaucoup pour la prière, Papa José. Frères et sœurs, prenons le texte qui nous est recommandé aujourd'hui pour la méditation. Nous sommes au chapitre 37 de Genèse. Nous allons lire les 11 premiers versets. Je vais demander à notre sœur Kaba de s'apprêter pour nous faire la lecture en Genèse au chapitre 37 de 1 à 11. Merci.
Merci, papa. Je lis en Louis II. Joseph vendu par ses frères. Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe, et le raconta à ses frères qui le haïssaient encore davantage, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, « Écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe s'éleva et s'étend debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. » Ses frères lui dirent, « Est-ce que tu régneras sur nous ? Est-ce que tu nous gouverneras ?» Et le haïr encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe et le raconta à ses frères. Il dit, « J'ai eu encore un songe. Et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. » Et il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, « Que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? » Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Amen.
Amen.
Amen. Merci beaucoup, ma sœur Kaba, pour la lecture. Mais son père garda les souvenirs de cet incident, nous dit la version en second révisé. Frères et sœurs, cet homme sur qui la promesse et la bénédiction étaient libérées, connaître des situations difficiles dans sa vie, homme, je parle de Joseph, après avoir perdu la femme qu'il aimait beaucoup, Rachel, son fils Ruben, l'aîné, va partir, va coucher avec sa concubine, sa servante Bila, qui était la servante de Rachel, qui est déjà décédée. Les événements douloureux se succèdent. Nous sommes aujourd'hui devant encore un autre événement où nous allons voir combien les enfants dans la maison de Joseph vont se haïr jusqu'à vendre un d'entre eux. Et nous ne sommes pas au niveau de la vente aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes juste la façon dont ces enfants sont en train de vivre dans la famille. Les rêves se succèdent, c'est pourquoi nous verrons les mots encore vont revenir. Les rêves se succèdent, mais la haine aussi est en train de prendre, la haine et la jalousie sont en train de prendre des niveaux élevés, jusqu'au même, nous allons voir, jusqu'au même à chercher comment tuer cet enfant. Mais il était le plus aimé, nous dit le texte, de son père. Et il a grandi avec, rappelons-nous que sa mère est déjà morte, qui a laissé son jeune frère Benjamin bébé. C'est ainsi qu'il va grandir, s'accrocher aux enfants de la servante Bila et aussi de la servante de sa tante et sa sa tante Léa, qui était aussi la femme de son père. Voilà, en fait, les textes, frères et sœurs, qui nous est recommandé de méditer aujourd'hui. Nous allons aller vraiment pas à pas, en descendant du premier verset et jusqu'à attaquer tous les 11 versets. Nous pouvons nous poser deux questions. La première question, c'est la question numéro 1. De quoi ou de qui parlent ces versets? Et la deuxième question, c'est la question numéro 3. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Mais aussi, nous pouvons ajouter, quelle vérité Dieu nous révèle dans notre vie personnelle? En jetant un coup d'œil sur l'écran, je ne vois pas de nouvelles personnes. Mais ce que je peux faire, c'est pour juste rappeler pour ceux qui viennent de se connecter à la radio ou même ceux qui viennent de se connecter sur place, sur le plateau, juste que nous sommes en train de méditer les 11 premiers versets, chapitre 37. Voilà, cela dit, frères et sœurs, nous pouvons maintenant, en étant bien sûr bref, ne soyons pas vraiment bavards, 2 minutes peuvent vraiment suffire pour que nous puissions dire l'essentiel de ce que le Seigneur nous a donné à partager avec le peuple de Dieu. Voilà, nous avons, frères et sœurs, la parole.
Je vais.
Oui, tu peux commencer, papa José, il n'y a pas de problème.
Merci, pasteur. Frères et sœurs, je suis au premier verset pour souligner l'installation au pays des Canaan de Joseph, de Jacob, pardon. Jacob s'installa au pays des Canaan, dans la région où son père avait séjourné. Ici, nous voyons la réalisation de la parole de Dieu. Dieu avait donné à Abraham ce pays. Dieu a répété la même promesse à Isaac, le père de Jacob. Et voilà qu'aujourd'hui, Jacob s'y installe. parce que jusque-là, il était en mouvement. Mais l'installation proprement dite est là. Dieu est fidèle. Ce qu'il a dit doit se réaliser. Faisons-lui confiance. Merci.
Oui, merci, Papa José. Nous voyons vraiment la fidélité et même de rester dans la volonté de Dieu. Jacob va habiter là où Dieu a destiné que ses aïeux et même sa progéniture restent. Merci beaucoup. Nous donnons la parole à Papa José du Canada, s'il vous plaît.
Merci beaucoup, pasteur, pour la parole. Toujours au verset 1, hier, on a vu comment Ésaü s'est installé dans les territoires d'Édom, dans la montagne de Séir. On a vu dans tout le chapitre qu'il est allé, en fait, posséder ces territoires-là. Dans ce cas ici, au verset 1, Jacob, comme le pasteur José venait de le dire, il s'installe, il demeure à Canaan, comme Dieu le lui avait dit. Mais il demeure là, non pas comme possesseur du territoire. Il demeure là toujours comme un résident, comme quelqu'un qui est de passage, un peu à l'image d'Abraham, d'Isaac aussi. Et en fait, Dieu avait dit à Abraham que ce territoire-là, Dieu le donnerait à la postérité d'Abraham. Et Jacob ici est en train d'attendre que cette promesse s'accomplisse, que cette possession ait effectivement lieu. Mais au moment où nous lisons ce chapitre, il ne possède pas encore le territoire. Que j'apprends du Seigneur ici, ce qu'il me dit, j'ai besoin d'être patient, j'ai besoin de conserver, de garder la foi, et j'ai besoin d'être persévérant dans la voie qu'il a ouverte devant moi. Parfois, les promesses du Seigneur, leur accomplissement, leur réalisation, à nos yeux, ça peut prendre du temps, mais elle se réalise au moment que Dieu a décidé. Contrairement à ce que le monde offre, des fois, ça peut venir très vite, comme dans le cas d'Ésaü. Il possède tout, il est puissant, il a tout, mais ceux qui s'attendent au Seigneur, parfois, ils sont appelés à attendre encore. Voilà.
Oui, merci. Nous voyons vraiment là la patience, comment nous devons attendre les promesses de Dieu avec toute la patience, parce qu'elles finiront tôt ou tard par s'accomplir. Merci beaucoup, pasteur José. Nous arrivons au verset 2. On va nous parler maintenant de la postérité de Jacob, mais en précisant bien de cet enfant Joseph, cet enfant de sa, est-ce que on parlerait de la première ou de la deuxième femme, parce qu'il a aimé, il a commencé par aimer Rachel et puis après on l'a imposé à Léa. Et bref, Joseph a grandi en fait comme orphelin de mère auprès de la servante de son papa. Le voici, déjà, on nous donne vraiment bien le détail qu'il a 17 ans, encore vraiment jeune, mais 17 ans déjà au service pour rendre service aux parents. Il est en train de faire paître les petits bétails avec ses frères, tout jeune garçon. Les textes nous dit qu'il venait toujours rapporter auprès de son père le comportement de ses frères. Et d'autres commentateurs disent même qu'il venait rapporter le mauvais propos dont il était sujet, c'est-à-dire leur mauvaise réputation, ce qu'il ne portait pas normalement, ensuite le mauvais propos dont lui-même était vraiment l'objet. Nous allons voir en dessous combien il était plus aimé et ça énormément les autres. Donc les premiers exemples que je tire, c'est que ce n'était pas un enfant fainéant, c'était un enfant travailleur, un enfant obéissant aux parents. Ça, c'est vraiment un exemple à suivre, une éducation qu'il reçoit de ses parents, de ne pas rester à la maison à ne rien faire, mais déjà de travailler, d'être utile à la famille, de faire quelque chose pour le bien de la famille. Voilà, ça c'est Joseph. Mais aussi, toujours dans le verset 2, ce que je constate, c'est un jeune homme qui voulait, dès le départ, avoir un comportement exemplaire. Un comportement exemplaire. C'est ainsi qu'il rapportait à ses parents, à son père précisément, ce qui était de mal dans le chef de ses frères. La réaction de Jacob, on ne montre pas comment est-ce qu'il était. Est-ce qu'il était en train de gronder les autres? Est-ce qu'il était en train d'enseigner, de faire les autres, de faire vraiment de reproches aux autres? Mais Joseph était là comme quelqu'un qui n'aimait pas le mal. Quand il voyait le mal, sachez que le papa sera au courant de ce que vous êtes en train de faire. Et ça, c'est vraiment comme la sainteté placée des autres qui voulaient vivre n'importe quelle vie. Voilà ce que nous pouvons dire sur le verset 2 de Pa José des États-Unis. Encore quelque chose à dire dans ce verset?
Oui, dans ce verset, il y a un mauvais exemple à suivre. Mauvais exemple de ces deux demi-frères, le fils de Bila et le fils de Zilpa. Comment est-ce que les enfants puissent parler du mal des parents, des autres enfants? Vraiment, ils sont très dangereux. C'est pourquoi le jeune Joseph dit ça à son père. Donc, Bila, les fils de Bila et de Zilpa sont un mauvais exemple à ne pas suivre dans la famille. Dans la famille, si nous avons des enfants comme ça, nous devons vraiment lutter dans la prière pour que le Seigneur puisse écarter, enlever de ces mauvais esprits qui aiment des querelles, des histoires qui n'ont pas de sens. Voilà.
Oui, merci. C'est pas dit explicitement, mais c'est sous-entendu parce que Joseph va rapporter ce que les autres font, mais parce que Joseph vivait au milieu d'eux, ça signifie que leur comportement aussi n'était pas vraiment un comportement correct. Okay. En tout cas, merci beaucoup, papa José. Donc, je reviens. Père Thomas, tu as la parole, s'il te plaît.
Oui, je suis au verset 3. Israël aimait Joseph plus que tous les autres. Souvent, on dit que les parents, nous devons faire attention de ne pas aimer un enfant plus que l'autre. Mais il est possible qu'un enfant fasse tellement du bien qu'il se fasse aimer plus. Par exemple, le Seigneur Jésus-Christ, dans le livre de Jean, il est écrit, le disciple que Jésus aimait. Donc, Jean était un disciple qui s'était positionné au point qu'il s'est fait aimer par le Seigneur plus. Et la Bible, nous sommes les enfants de Dieu, mais c'est possible que Dieu aime un enfant d'une manière spéciale. Par exemple, la Bible dit, Dieu aime celui qui donne avec foi, sans contrainte. Donc, quand nous donnons et avec joie que nous le faisons, la Bible dit Dieu nous aime. C'est un amour particulier. C'est possible d'être aimé par Dieu d'une manière particulière. Ça, toujours la parole de Dieu, ça va dire que, Jésus va dire qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, en Acte 20, 35. Donc, c'est pour nous dire que c'est possible qu'en aimant les Écritures, en aimant le Seigneur, en nous approchant davantage du Seigneur, que nous nous fassions aimer du Maître d'une manière spéciale. Merci.
Amen. Ça, c'est vraiment une réalité.
Je suis bien d'accord.
Ok, j'entends quelqu'un qui parle un peu à sous-entendu. Je n'ai pas encore donné la parole à quelqu'un. Mais les Écritures sont claires. Quand nous aimons le Seigneur, en nous investissant dans sa parole, Dieu a du plaisir vraiment à aimer plus et aussi ceux qui donnent sont en train de toucher le cœur de Dieu plus que ceux qui ne font rien. C'est vrai que l'œuvre du salut est exposée à toute l'humanité entière, mais ceux qui font la différence, c'est ceux qui vont aimer le Seigneur plus et dans l'obéissance à ce que Dieu a dit. Merci beaucoup, Papa Thomas. Nous revenons encore à Pasteur José du Canada. Tu as la parole.
Oui, merci beaucoup. Du Canada, ok.
Ok, je vais revenir à toi tout à l'heure.
D'accord.
Merci beaucoup, Pasteur. Ce que je voudrais épingler ici, on est en train aujourd'hui, dans ce chapitre 37, on est en train de voir les conséquences de la polygamie, c'est-à-dire les effets pratiques de la polygamie sur tous les membres de la famille. Les enfants de Bila et de Zilpa, peut-être que ici, sans chercher à défendre ce qu'ils font ce mal, comme nous l'avons entendu, mais nous pouvons voir les effets d'une vie de polygamie, parce que inévitablement, les enfants de telle ou telle autre femme vont se sentir à un moment donné délaissés, abandonnés ou moins aimés que les autres. Et c'est ça qui est l'exemple à ne pas suivre. Parce que sur le coup, le fait d'avoir accès à deux, trois femmes, l'homme va peut-être trouver de la puissance, du plaisir dans tout ça, mais les effets de ces actions-là, c'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Vous vous souvenez lorsque Jacob allait à la rencontre de son frère et qu'il avait peur, il avait placé les enfants et leur mère selon qu'ils pouvaient être exposés. C'est-à-dire que les enfants des servantes étaient placés en premier, en d'autres termes, exposés. Et les enfants comprenaient qu'au fait, nous sommes mis à risque dans ce cas ici. Ça ne m'étonne pas qu'ils aient ces comportements parce que dans la famille polygame, il se passe inévitablement ce genre de choses. Donc la polygamie, ce n'est vraiment pas dans le projet de Dieu, ce n'est vraiment pas quelque chose que nous pouvons copier aujourd'hui parce que les conséquences sont toujours douloureuses et néfastes. Voilà.
Merci beaucoup, papa José. C'est vraiment la conséquence de la polygamie que nous sommes en train de vivre ici. Ce n'est pas vraiment quelque chose vraiment à conseiller. C'est même détruire la société parce que les conséquences dans toutes nos sociétés de la polygamie, nous avons plus vu beaucoup, beaucoup de maux que de bien. Donc, la parole de Dieu, vraiment, c'est confirme. Donc, avant de donner la parole au pasteur José des États-Unis, je voulais nous lire une référence en Jean, chapitre 14, verset 21, pour nous montrer que Dieu aussi, il peut aimer plus quand on vit dans l'obéissance et quand on vit dans sa parole. Le verset 21 dit ceci. Jean 14, 21 nous dit, celui qui a mes commandements, on commence par là, celui qui a mes commandements et qui les garde, celui-là, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime, il sera aimé de mon Père, moi aussi je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. Donc c'est pour montrer que le degré dont Dieu aime ses enfants, ça dépend aussi de la façon dont nous réagissons à cela. Quand nous écoutons les paroles, nous ne les gardons pas, nous ne les mettons pas en pratique, nous ne serons pas aimés de la même manière ou le regard de Dieu ne sera pas de la même manière comme sur ceux qui gardent la parole, qui aiment la parole. Et dans le même chapitre, Jean 14, le verset 24 va dire, celui qui n'aime pas et ne garde pas mes paroles, la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Donc, il y a vraiment une différence quand on obéit, quand on garde la parole, quand on vit dans l'obéissance, quand on donne à Dieu, il y a une différence. Nous devons vraiment savoir cela. Ok, merci beaucoup. Nous continuons avec Pasteur José des États-Unis, s'il te plaît.
Oui, je suis encore au verset 3. Nous avons Jacob aimait Joseph plus que ses autres fils, et on donne pourquoi. Car il l'avait eu dans sa vieillesse. Et lui avait donné une tunique de luxe. Bien-aimés, nous sommes appelés à aimer les enfants, mais pas d'une façon particulière, parce que ce qui va suivre a comme base cet amour excessif de cet enfant, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Une raison qui était valable pour lui. Mais cette raison-là est dangereuse. Et le fait même de lui donner un habit particulier, bien-aimé, ça attire également l'attention des autres enfants. L'enfant devient un enfant chéri. Et là, ce n'est pas étonnant s'il y a la jalousie, s'il y a la haine, et plus tard, on va parler de la mort. Alors, moi, je pense que nous devons aimer les enfants. Et chaque parent connaît la force de chaque enfant. Et il peut l'apprécier dans ce sens-là. Mais en tant que chrétiens, nous sommes appelés à éviter de mettre l'accent sur un enfant pour éviter la haine, la jalousie dans la famille. Merci.
Oui, merci beaucoup. C'est vraiment clair. Dans la mesure du possible, le peuple de Dieu, en tant que parent, parent tant physique, spirituel, en gérant nos considérations de nos enfants d'une manière correcte pour ne pas créer cette jalousie que nous sommes en train de vivre dans ce texte que nous méditons. C'est ce qui fait qu'au verset 4, les autres frères ont réellement constaté cela.
Mm-hmm.
Ils ont vu que leur père aimait plus ses garçons, plus que tous. C'est pour cela qu'ils les prirent tous en haine. La haine est née dans la maison à cause de cela. Et ils ne pouvaient pas lui parler avec amitié. Ils pouvaient se parler, les autres enfants pouvaient se parler en amitié entre eux, mais quand il s'agit de parler à Joseph, c'était vraiment avec une dureté. La haine est née vraiment dans la maison à cause de ce climat. Donc, c'est entretenu par le parent, par Jacob. Et ça, c'est vraiment un exemple à ne pas suivre. Okay, nous continuons encore. Je reviens au pasteur José du Canada.
Je suis d'accord avec les commentaires que vous venez tous les deux de faire, dans la mesure où, c'est vrai, les enfants, même les enfants qui sont issus de la polygamie, ces enfants n'ont pas voulu cette situation-là. Par conséquent, le père, donc le patriarche, doit faire en tout cas tout pour ne pas leur faire peser le poids de ses choix ou même des conséquences de ses actes. C'est tout à fait légitime de pouvoir penser comme cela. Je suis en train de voir, je me mets un peu dans les chaussures de Jacob. Cet homme, au moment où nous méditons ce 37e chapitre, il doit avoir au moins 120 ans. Nous venons de voir, son père est mort à 180 ans et son père les a eus quand il avait lui-même 60 ans, donc un peu d'arithmétique, donc on comprend que Jacob ici doit avoir au moins 120 ans, si pas plus. Il sent qu'il peut partir aussi d'un jour à l'autre et il se dit, je suis le dépositaire de la promesse de Dieu. Comment le Seigneur va faire pour passer cette promesse à mes enfants? Le premier-né, il s'est disqualifié en montant sur le lit de son père. Les deux autres qui suivent, Siméon et Lévi, ils sont brutaux. On a vu ce qu'ils ont fait à Sichem et les autres. Au point que leur père avait dit, vous me causez du trouble et vous me mettez en discorde avec les voisins. Au fait, il y a maintenant ce jeune homme, Joseph, qui lui émerge, il est fidèle, il est intègre. Le père, j'ai l'impression qu'il commence à voir qu'il est possible que ce soit lui qui va être dépositaire de la promesse de Dieu. Et dans la suite, évidemment, on va voir que même les songes, même tout ça là, le père va les mettre ensemble parce que au verset 11, on va dire, son père va garder les souvenirs de ces choses. Puissions-nous, tout en évitant de montrer notre préférence dans les enfants, mais prier Dieu pour que le Seigneur se révèle aux enfants, que le Seigneur montre la direction. Parce que si nous ne faisons pas cet effort de recommander nos enfants au Seigneur, inévitablement nous allons tomber dans le panneau en montrant la préférence sur un enfant contre les autres, et ça va faire échouer la vie des familles. Par contre, si nous demandons que Dieu nous conduise, certainement, un enfant sortira du lot pour prendre la relève, le poids de la famille et nous amener tous vers l'avant. Voilà.
Oui, merci beaucoup, Pasteur José. Que le Seigneur vraiment nous aide de ne pas voir les choses de nos propres yeux et de laisser vraiment la volonté de Dieu s'accomplir, mais dans la discussion, en train de prier pour les enfants, pour que l'Éternel seul fasse le choix. Là, nous voyons vraiment clairement qu'il était déjà en train de préparer cet enfant par la tunique, par l'amour, partout, le préparer pour la succession. Mais les voies de Dieu ne sont pas les nôtres. Merci beaucoup. Je donne la parole à Maman Christine, s'il te plaît.
Oui, merci beaucoup, Pasteur Célé, pour la parole. Bien-aimé dans le Seigneur, je prends le verset 6, 7 et 8 parce que c'est la même idée qui continue. Et en plus de la haine qu'ils avaient dans leur cœur, le pauvre garçon à 17 ans fait un rêve. Le rêve s'ajoute dans sa vie. Il explique comment la situation, c'était pendant la moisson, nous étions en train de faire la moisson. Mon gerbe s'est levé et tous vos herbes venaient se prosterner devant la mienne. Écoute les explications de ce frère. Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il les haïssait encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Bien-aimé, pour dire que l'attitude, le comportement du papa en lui faisant une tunique unique de multicolore, dit ma version, l'aimant beaucoup a constitué de la haine chez les autres, si bien que les rêves étaient malvenus. Le garçon n'avait que 17 ans. Pour lui, rêver, c'est dire aux autres ce qu'il a vu sans tenir compte qu'il y avait de la haine dans le cœur. Et ils ont bien expliqué les rêves. C'est vraiment ce qui. Les bonnes explications pour dire que, bien-aimé, quand on a déjà quelque chose qui ronge dans le cœur pour contre quelqu'un, tout ce que la personne apporte est malvenu. Ici, ces propos, les rêves, c'est malvenu parce que c'est toujours lui. Mais sans le savoir que parmi les moyens que Dieu utilise à parler aux hommes, les rêves aussi étaient utilisés. Le Seigneur utilisait les rêves pour parler à ces garçons, pour dire que évitons d'avoir de mauvaises intentions, d'avoir la haine dans le cœur, dans nos cœurs. Ça n'empêchera même pas Dieu d'amener les rêves. Dieu fera ce qu'il a décidé. Amen.
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 Merci beaucoup, Maman et Christine. Donc là, c'est vraiment clair que c'est la haine qui était dans le cœur. Quand quelque chose d'autre vient s'ajouter, un rêve, il dit, regarde-moi. Non seulement qu'il est plus aimé, mais il veut se prétendre nous gouverner. Et là, c'est encore, la haine va monter des gradins pour prendre une autre dimension. Et c'est vrai, sachant vraiment que Dieu parle par les rêves. Aujourd'hui encore, Dieu continue à parler par des rêves. Ne gardons pas de la haine contre un frère, contre une sœur, parce que tout ce qui viendra de cette personne, que la personne nous exhorte, que la personne nous donne, que la personne fasse ceci ou fasse cela, ça sera toujours mauvais. Et ça, c'est l'action du diable dans le cœur. En tout cas, merci beaucoup. Nous revenons encore au frère Thomas, s'il vous plaît.
Je suis au verset 4. Les enfants de Jacob, ils ont haï davantage. Ils ont haï Joseph et ils vont le haïr davantage après le rêve. C'est un mauvais exemple à suivre. Être jaloux de quelqu'un parce qu'on l'aime plus que soi, pendant qu'on fait le mal, n'est pas juste devant Dieu. On ne peut pas reprocher cette haine-là, justifier cette haine-là par rapport à ce que Jacob a fait, parce que il y a parfois de la faveur qui vient de Dieu qui fasse que quelqu'un fasse quelque chose de spécial par rapport à un enfant, tout simplement parce que le parent, le papa qui fait ça, il est dirigé par Dieu d'une certaine, il y a certaines onctions qui poussent cela. Par exemple, Caïn et Abel, deux enfants nés sur la terre, les premiers enfants. Ils ne sont que deux sur la terre comme frères. Les deux font les sacrifices. Dieu accepte le sacrifice de l'un. Il n'accepte pas de l'autre, il se fâche. Et Dieu va lui dire, il va dire à Caïn, pourquoi tu te fâches? C'est ça qu'il lui a dit. Il lui a dit, mais pourquoi tu te fâches? Si tu fais le bien, tu seras bien accueilli. Mais quand tu fais le mal, ce n'est pas bien. C'est ça que Dieu a dit à ce garçon-là. Pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu agis bien, tu relèveras la tête. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais il va quand même aller tuer son frère. Donc Dieu, il est souverain. Il peut favoriser, il peut choisir Jacob et lui faire donner cette tunique-là. Ça ne veut pas justifier une jalousie. Oh, je ne peux pas me fâcher parce qu'un frère est plus béni que moi et puis je m'en veux à la personne par qui Dieu le bénit parce que Dieu a ses propres voies. Je dois au contraire regarder comment je peux me repentir pour que moi aussi je sois désiré. Parce que dans les cas ici, ces hommes étaient déclarés mauvais déjà. Et la différence d'âge entre Joseph et ses grands frères est très grande. Ils peuvent être des pourvoyeurs. Ils sont comme des papas à Joseph. Il a 17 ans, eux, ils ont 40, quelques 50. Mais ils sont jaloux de lui sur un petit habit qu'on a donné à leur frère. Donc, je voulais seulement dire que Dieu nous garde de ces cœurs de haine dans l'Église encore aujourd'hui, parce qu'un tel frère est comme ceci, comme cela, ce n'est pas bien.
Amen.
Merci beaucoup, Papa Thomas. C'est une réalité aujourd'hui dans l'Église, des jalousies déplacées, il y en a beaucoup, parce que tel chante bien, parce que tel a tel ministère, tel est comme ça. Le succès des autres, ça crée vraiment de la haine, ça crée de la jalousie. Nous devons vraiment nous examiner quand nous entendons parler des autres. Quelle est notre attitude quand j'entends parler d'un tel serviteur de Dieu, d'une telle servante de Dieu? Quelle est notre attitude? C'est vraiment cela, les comportements que nous sommes en train de voir avec les enfants de Jacob. Et je voulais dire quelque chose au verset 5. Au verset 5, Jacob fit un rêve et les rapporta à ses frères. Je crois que ça, c'est la jeunesse. Déjà, le climat n'était plus bon parce qu'il pouvait aussi remarquer qu'on ne lui parlait plus avec amitié. On ne faisait que le gronder quand il avait quelque chose, ainsi de suite. Le climat n'était plus bon. Ce n'étaient pas les personnes indiquées à qui venir encore rapporter son rêve. Donc, la leçon que je tire ici, c'est que des fois, quand Dieu nous parle, nous ne savons pas où est-ce que nous pouvons aller pour avoir le discernement. Donc, tirons vraiment cette leçon. Nous n'avons pas à parler à tout le monde parce que nous avons reçu quelque chose de la part de Dieu. Nous pouvons amener chez un frère, amener chez une sœur. Mais comment est-ce que ça va être reçu? Aujourd'hui, avec l'heure de l'Internet, avec l'heure de Twitter, de Facebook, avec l'heure de téléphone, vous parlez à une personne, la personne, la nouvelle vous a propagée dans le monde entier. Donc, nous devons avoir le discernement. Quand nous avons quelque chose que le Seigneur nous confie, le Seigneur continue à parler encore aujourd'hui. Il peut nous parler pour nous-mêmes, pour notre propre vie, pour notre famille, pour notre pays, pour notre église, pour notre fumesse. Le Seigneur continue à parler. Mais nous devons réfléchir, nous devons discerner à qui est-ce que nous pouvons confier cela pour avoir le discernement. C'est ce qui a manqué à Joseph. Vous avez rapporté directement cela. Nous voyons dans le deuxième rêve, il va à son père. Le père aussi va réagir un peu différemment, mais il va au moins garder. Donc, ayons vraiment le discernement quand nous devons chercher le discernement quelque part sur ce que Dieu nous indique, peut-être d'une façon claire et précise, sur ce qu'il va faire, sur la mission qu'il veut faire, mais nous devons avoir le discernement.
Oui, je veux dire quelque chose.
Ok, merci, allez-y, papa José des États-Unis.
Oui, entre les deux rêves, il y a une phase qu'il faut souligner. C'est la dernière phrase du verset 8. Ils, ce sont ses frères, le détestèrent davantage à cause de ses rêves et des récits qu'il en faisait. Alors, ce qui fait que, premièrement, il n'y avait pas que ce rêve à avoir un peu la construction de cette phrase. À cause de ses rêves, il y en avait. Et des récits qu'il en faisait. C'est-à-dire, il ne racontait pas seulement le rêve. Parce que voilà, j'ai vu ceci, et il faisait des récits. Il faisait des récits autour de ces rêves-là. Voilà. Donc, il, comme tu as dit, pas de discernement. Un jeune est là, il raconte. Pour lui, ce n'est pas un problème. Tandis que d'autres, c'était un problème. Et surtout qu'il en faisait des récits. Et ce qui aggravait encore la situation. Voilà ce que je voulais souligner. C'est cette phrase-là, elle est importante. Oui. Merci.
Oui, merci beaucoup. Il y avait beaucoup de rêves et après il y a un autre rêve avec le soleil, la lune, tout ça qui vont se prosterner encore. Tout cela, ça va vraiment commencer à choquer. Même le père va commencer à le gronder. Que signifie tout cela? Ok, nous revenons encore. Frère Thomas, tu as la parole.
Oui, moi, je voudrais, dans la même pensée, supposer que la famille, au lieu du verset, au lieu qu'on dise que la famille, les enfants, ici, les haïr au verset 5, supposons que on dise là-bas que, comme il avait des rêves comme ça, et il était un garçon, on dirait, béni, supposons qu'on dise que ses frères commencèrent à le protéger et à valoriser. C'est là pour voir ce que la famille peut devenir par rapport à ça. Supposons cela aussi. Parce que quand Dieu veut bénir le fumeur, ce n'est pas seulement qu'il va devoir faire seulement dans la maison du pasteur seul. Il peut amener un ancien comme Gaston, et puis Dieu le bénit dans des affaires d'une certaine manière, et nous protégeons ça, et finalement, nous avons toutes les solutions là-bas. Parce que Dieu a placé cet enfant dans cette maison. Mais supposons que ses frères ici ont regardé cet enfant, ils ont dit il est un enfant spécial. Et nous allons le protéger parce qu'on dirait que Dieu va nous bénir à travers cet enfant. Et les parents font la même chose. Supposons un peu cela. Quel serait le parcours d'un enfant qui rêve de choses comme ça? Supposons qu'il y a un rêve et l'autre jour un rêve Et c'est un enfant, on dirait, spécial. Et qu'on se dise, nous allons encadrer parce que cette famille ici a une bénédiction dans cet enfant. Cet enfant va nous sortir de la souffrance. Comme Noé, son papa l'a nommé Noé, c'est lui qui va nous sortir de la servitude. Regardons un peu dans nos familles, nos enfants, notre groupe, à l'église, au FIMES. N'y a-t-il pas certaines personnes que peut-être Dieu amène une certaine lueur et on se dit, essayons un peu d'encadrer ceci, de protéger ceci. Peut-être que c'est une source de bénédiction pour la famille, pour l'église, pour la communauté. Merci.
Merci, merci beaucoup. C'était vraiment quelque chose qui a manqué à cette famille, et nous devons nous en tirer vraiment des leçons au lieu de laisser la haine et la jalousie et la concurrence prendre de la place. Regardons qu'est-ce que Dieu voudrait vraiment nous enseigner au travers de tels récits. Peut-être que le Seigneur est en train vraiment de nous parler d'une manière personnelle pour que nous puissions enlever tout ce qui ronge nos cœurs partout où Dieu nous a établis pour son travail. Nous sommes en train d'atterrir, frères et sœurs. Je vois encore une même. Christine, tu as la parole, s'il te plaît.
Oui, merci beaucoup, Pasteur Séré, pour la parole. Bien-aimé dans le Seigneur, ici, je suis vraiment dans la joie, la fierté, les choix de Dieu. Dieu a choisi ce garçon Joseph parmi tous ses frères, malgré la haine qui ronge dans leur cœur. Vous voyez comment c'est mauvais quand on a une haine. On pense qu'on peut même influencer l'attitude de Dieu. Non, Dieu n'est pas influencé par ce qui est dans le cœur. Et tous, tous ses frères ici, regardaient de mauvais œil. Ce petit Joseph, mais ça n'a pas empêché Dieu qui ne faisait que donner le rêve. Le rêve, c'est ça venait de Dieu, qui avait planifié et qui n'a pas changé. Pour dire que, bien-aimés, que nous soyons là en train de ruminer la haine, la méchanceté, mauvaise intention, n'importe quoi, sachant que nous n'allons pas changer les choix de Dieu. Les choix de Dieu, c'est Joseph, et Joseph reste gardé par Dieu, protégé. Dieu continue à donner les rêves et ce qui va arriver va se réaliser, même si on n'est pas là pour dire que ma haine ne changera pas les choix de Dieu. Amen.
Amen. Merci beaucoup. Nous terminons ce soir avec ces paroles de Maman Christine pour vraiment nous montrer que Dieu il pouvait arrêter aussi pour dire, mais je continue à parler, mais ça crée beaucoup de tensions dans cette famille. Mais Dieu continue toujours à montrer d'autres rêves, rêves sur rêves. Mais ce qui est la dernière note, j'aime beaucoup la dernière phrase de notre texte en Genèse 37, de 1 à 11. La dernière phrase nous dit, malgré que ses frères éprouvèrent de la jalousie à son égard, mais son père garda le souvenir de cet incident, garda le souvenir de ses paroles. Donc, à un certain moment, je crois que Joseph, Jacob plutôt, a commencé à voir qu'il y a quelque chose de spécial qui va se passer. Et il a dit, non, il faut que je garde, parce que ses rêves ne peuvent pas être pour rien. Pourtant, c'est un homme très, très expérimenté dans la voie de Dieu qui pouvait, dès le départ, déjà discerner ce que Dieu va faire, mais il s'est laissé aussi beaucoup influencer par la haine qui a pris naissance dans sa famille à cause de tout ce qui est arrivé précédemment. Alors, frères et sœurs, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Quelle richesse nous voyons, nous sommes tous membres de la famille de Dieu, nous sommes tous membres dans nos familles physiques, et nous voyons comment ce texte peut vraiment nous aider à ne pas suivre des mauvais exemples, soit de Joseph, soit de Jacob, soit des frères de Joseph, beaucoup de mauvais exemples. voit dans le texte qui va venir après, ça ne va pas changer le plan de Dieu. Dieu a déjà arrêté quelque chose qu'il veut faire. Pour cela, que nous sommes peut-être en train de vivre maintenant une exclusion. Nous sommes en train de vivre de la haine. Nous sommes en train de vivre de mésententes. Nous sommes en train de vivre. Accrochons-nous à Dieu. Cherchons à vivre dans la fidélité à sa parole. Gardons sa parole. Gardons ses promesses. Regardons vers lui au lieu de regarder vers les hommes. Évitons ou bannissons toute forme de mal, comme 1 Thessaloniciens 5, 22 nous dit, toutes sortes de jalousies, toutes sortes de haines dans nos cœurs, bannissons cela et regardons vers le Seigneur, la promesse de Dieu finira par s'accomplir. Et nous bénissons vraiment le Seigneur pour toutes les richesses que nous venons de tirer dans cette parole. Comme annonce, nous commençons par saluer les frères et sœurs de Québec, d'Alberta et aussi d'Ontario. Aujourd'hui, je ne vois pas ceux des États-Unis. Soyez bénis là où vous êtes, frères et sœurs. La deuxième annonce, c'est le préparatif du camp biblique. Dans toutes les familles, tous ceux qui ont déjà donné leur accord de participer au camp biblique, c'est bien vraiment de se préparer. Le mois de mars, nous sommes déjà plus que la moitié est en train de chercher à finir. Nous allons bientôt entamer le mois d'avril. Donc, les préparatifs, nous devons nous préparer vraiment sérieusement dans la recherche soit de visa, soit des tickets, soit des ceci, soit aussi des dons à donner pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, pourquoi pas. Donc, voilà tout cela, c'est dans les préparatifs. Si vous êtes habitué dans les emails d'écouter les enregistrements, nous avons des petits ennuis avec l'email que nous utilisons, mais les enregistrements sont toujours postés dans notre site. Vous allez dans notre site fimes.info sur audio et puis méditation. Vous allez écouter tout ce que vous avez raté. Vous n'avez pas suivi les méditations passées. Troisième annonce, c'est que nos méditations sont postées aussi sur enseignement.com. Donc, c'est facile de les retrouver en cherchant quelques modérateurs. C'est pas tous qui ont été acceptés parce que enseignement.com nous a dit qu'ils sont très nombreux. Mais ceux qui sont déjà acceptés, si vous allez du côté des orateurs, vous pouvez chercher les noms que vous connaissez. Vous cliquez sur ces noms, vous verrez quelques méditations sont postées dans enseignement.com et nous sommes en train de faire des statistiques sur leur suivi dans le monde. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Le texte de demain, nous allons continuer. Genèse 37, du verset 12 jusqu'au verset 36e. Voilà, nous nous arrêtons là et je vais demander au frère Gaston de prier pour nous recommander à la grâce du Seigneur.
Notre Dieu, nous te rendons grâce, nous te bénissons et nous te glorifions. Tu viens de nous parler et cette parole est tombée à point pour que nous puissions nous réveiller, nous tes enfants, pour que nous puissions marcher dans l'unité, dans l'amour. Seigneur notre Dieu, il y a quelques jours, je lisais sur Internet cette petite jeune fille de 10 ans qui est à Londres, qui est surdouée en mathématiques à 10 ans, elle a déjà eu sa maîtrise en mathématiques. Le monde scientifique l'appuie, l'encadre, l'encourage à continuer pour obtenir son doctorat. En est-il de même pour nous des chrétiens? Lorsque nous trouvons une sœur, un frère qui émerge, comment réagissons-nous? L'Éternel nous a interpellés parce que nous savons que c'est toi qui élèves et c'est toi qui abaisse. Joseph n'a fourni aucun effort pour recevoir ses rêves. C'est toi qui lui donnais ses rêves chaque fois qu'il s'endormait. Béni sois-tu, Éternel Dieu des armées. Nous pouvons vivre malgré que tu utilises telle ou telle autre personne. Nous pouvons vivre dans l'unité comme nous l'avons vu chez Pierre et Jean. Pierre très bouillant, mais il n'était pas les choyés, les plus aimés, mais c'était Jean qui Jésus-Christ aimait le plus. Mais il n'y a eu jamais de dispute. Pierre se dit, pourquoi je ne suis pas plus aimé que Jean? Éternel Dieu des armées, même notre Seigneur, quand il voulait partir, il a confié la responsabilité à Pierre et non à Jean. Gloire te soit rendue, soutiens-nous. Nous voulons vivre cette unité. Nous voulons vivre cet amour dans tout ce que nous faisons, au sein du FEMES, dans nos églises, dans nos maisons, partout où nous sommes, ô Éternel Dieu des armées. C'est toi qui établis, Éternel, tu n'es pas injuste, tu es amour, tu es bon, ô Éternel Dieu des armées. Si tu choisis tel ou tel autre, c'est pour l'avancement de ton œuvre, c'est pour l'unité de la famille, c'est pour que tous croissent ensemble. Que le sang de Christ nous couvre. Que ce que tu nous as dit ce soir, nous le mettions réellement en pratique. Qu'il y ait des différences dans tout ce que nous faisons. Que nous ne prenons pas des choses selon notre vie, mais selon ce que le Saint-Esprit dépose en nous. Parce que ce que le Saint-Esprit dépose en nous, c'est ce qu'il a reçu auprès de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, celui-là même qui a versé son sang sur la croix de Golgotha pour tout un chacun de nous, pour ses FEMES et pour nos églises. Sois loué notre Dieu et sois béni. Là où il y a les mésententes, là où il y a la jalousie, là où il y a des divisions, là où il y a la haine, Seigneur, nous invoquons le sang de Christ. Nous détruisons tout ce qui est haine, division, jalousie et autres œuvres de l'ennemi. Nous le consumons dans le sang de Jésus-Christ. Nous voulons celle, ô Éternel, que ta gloire y règne, ta lumière y règne, ta joie y règne pour l'avancement de ton œuvre, notre Dieu, afin qu'il y ait la différence qu'on voie à nous et que le monde dise réellement ceux-là sont des disciples de Jésus-Christ. Merci. Seigneur notre Dieu, nous recommandons ce moment entre tes mains, au moment où nous voulons nous séparer. Que tu bénisses chaque famille. Là où il manque quelque chose, Seigneur, pourvois. C'est pour cela que tu es Jéhovah Jireh. Agis, Seigneur, afin que notre joie à nous tous soit complète pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Et merci aussi pour l'instrument qui t'était choisi ce soir pour canaliser ces moments de méditation. Que tu le bénisses, lui et toute sa famille, au nom de Jésus-Christ. Amen.
Amen. Merci beaucoup pour la prière, Papa Gaston. Peuple de Dieu, que la grâce abonde dans nos maisons. Allons en paix. Amen.
Amen. Amen.